Merci. Avec Éric Douady, nous avions proposé dans le cadre de cette journée une présentation à deux voix intitulée donc « Pistes pour une pragmatique terrestre, quel jardin pour dessiner quelle communauté ?» Éric Douady est chargé de recherche au Centre d'économie et de sociologie appliquée à l'agriculture et aux espaces ruraux de l'INRA. Et nous avions donc réfléchi et travaillé ensemble il y a quelques mois sur ces questionnements autour donc des communs et des jardins, dans la perspective donc d'une présentation et d'une discussion commune de nos recherches. Éric Douady ne peut être présent aujourd'hui. Il m'a averti ces derniers jours. Il est désolé. Il est actuellement en arrêt de travail. Aussi, je vais reprendre seul donc, le projet qui nous a animé pour cette présentation. Je n'aborderai pas les cas dijonnais de potagers urbains sur lesquels Éric Douady a travaillé. Il me semble très difficile de présenter les résultats d'enquêtes lorsqu'on n'y a pas soi-même participé. Donc, je m'appuierai au cours de cette communication sur mes propres travaux. Néanmoins, donc, je souhaite m'inscrire donc, dans la perspective pragmatique dont nous étions partis, d'examiner donc, la situation de manière rigoureuse entre jardin et commun, en partant des pratiques et en prenant au sérieux les difficultés qu'elles soulèvent. Et ce, afin donc, de les analyser au regard des acteurs et aussi des processus de transition qui sont mis en œuvre et également à l'épreuve. Je travaille depuis une dizaine d'années sur ces dynamiques de transformation. Et aujourd'hui, donc, je vais m'attacher plus particulièrement à vous présenter mes analyses sur deux de ces processus. Alors, ces processus, à savoir comme ils sont couramment désignés, c'est le renouvellement urbain, d'une part, et la revitalisation rurale. Dans le cadre de la rénovation urbaine, il s'agit d'un quartier en banlieue de Grenoble. Et pour ce qui concerne la revitalisation, je propose d'analyser un projet porté par la commune de Salins-les-Bains, ici en Franche-Comté. C'est un centre-bourg en milieu rural, où je mène une recherche-action-formation avec Christian Guinchard, nous sociologues, mais aussi avec nos collègues géographes, archéologues et spécialistes de l'information et de la communication au sein de la MSHU. Donc, je vais vous proposer une analyse de la question que nous avions formulée, quel jardin pour dessiner quelle communauté, à partir de ces deux enquêtes qui portent sur deux terrains différents, ainsi que sur des processus différents, mais où les jardins rencontrés et étudiés se distinguent et donnent à voir cette diversité aussi qu'on interroge dans le cadre de cette journée. Donc, très concrètement, je propose d'analyser de manière fine ces pratiques autour de ce qu'on appelle les jardins d'hiver, d'une part, et les jardins terrasses. Et en interrogeant donc l'habité vraiment au sens large, puisque c'est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des quatre bâtis. Cette présentation donc, de ces recherches empiriques, elle poursuit un objectif double. Il s'agit d'une part de questionner donc, l'idée de commun sous l'angle des pratiques, ce d'abord en restituant donc les mondes vécus par les habitants, et ce au fur et à mesure donc de la rénovation, de la vie en œuvre de logements qui ont été qualifiés et certifiés de durables. Et puis d'autre part, je souhaite donc dans un deuxième temps ouvrir la discussion sur ce que produit le travail de mise en commun d'expertise qu'on va voir, donc des savoirs de nature très différente, pas simplement technique. Et ce, afin donc d'analyser ce que recouvrent les pratiques, mais aussi nos manières de faire, et discuter ensemble au final donc ces pistes pour une pragmatique terrestre qu'on pourrait retirer du terrain. Donc le premier terrain renvoie à un terrain de ma recherche doctorale que j'ai réitéré en fait à 10 ans d'intervalle. Entre 2007 et 2017, donc cette enquête a été réalisée à partir d'une triangulation de méthodes d'entretien et d'observation de longue durée que j'ai renouvelée sur un programme donc européen de rénovation dite durable à Saint-Martin-d'Hères. Vous avez une carte pour situer. Donc cette commune, c'est une commune française donc, qui se trouve, qui est limitrophe à Grenoble et qui est située donc, dans le département de l'Isère et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les approches aujourd'hui des dispositifs donc, de durabilité sont bien multipliées ces dernières années et elles se sont fortement portées sur les projets de développement et sur leur mise en œuvre. Ce qui est moins connu, ce sont les effets du passage du temps qui demeurent aujourd'hui encore peu étudiés, ou en tout cas peu étudiés de manière systématique. Donc afin de comprendre justement et d'expliquer les variations qui ont lieu au cours du temps, j'ai ainsi souhaité mobiliser une technique d'enquête qui est la revisite. Cette technique est peu adoptée en France, ou en tout cas elle est davantage pratiquée par l'anthropologie et puis l'ethnologie en Angleterre et aux États-Unis. Mais il s'est agi en fait pour moi, à travers cette technique, d'enquêter à la fois donc, sur le temps et les espaces vécus de la rénovation durable, et ce, en faisant et en refaisant connaissance avec les expériences habitantes. Donc venir et revenir sur au même terrain une décennie plus tard ne procède donc pas dans ce cas-là d'un cahier des charges, d'un commanditaire, et c'est ni un procédé fortuit dans ce cas, puisqu'en fait la première phase de cette enquête elle a débuté en 2006 au cours de ma thèse en sociologie donc sur les politiques et les pratiques professionnelles et habitantes de logements déclarés comme étant durables. Et donc, en tant que doctorante, donc, mon projet de recherche a été lauréat du concours de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et puis, il a bénéficié d'un cofinancement jusqu'alors inédit du plan urbanisme, construction et architecture. Et j'en parle parce que ce soutien donc, du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, il s'est accompagné d'attentes. D'attente envers une étude approfondie du programme national d'expérimentation Villa urbaine durable, un programme pionnier précurseur des écoquartiers français. Et ma démarche d'enquête, si elle s'est engagée sur ces terrains, elle ne s'y est pas enfermée et elle allait voir des terrains aux contours autres qu'institutionnels grâce alors à une approche internationale que j'ai ancrée dans la comparaison européenne et puis aussi une ethnographie multisite que ce soit au sein ou à la marge de ces chantiers donc précurseurs de l'action étatique en matière de construction des écoquartiers. Donc là, je vais vous parler d'une enquête en contexte de rénovation urbaine qui a donc cherché à prendre connaissance de cette diversité des situations et aussi des expériences qui sont tentées à ce jour. Alors, si la plupart des projets en 2006-2007 étaient en cours de montage, d'instruction, de démarrage, la rénovation bioclimatique dont je vais vous parler, de 354 appartements en location sociale, donc à Saint-Martin-d'Hères, a retenu mon attention à la fois par son envergure, sa programmation, mais aussi l'état de son avancement qui était relativement exceptionnel en cette période. Le fond de mon questionnement, c'était celui donc, des modes d'habiter. Et l'explorer à travers la rénovation urbaine, c'était pour moi l'explorer comme un processus de nature vivante. Et donc, ça impliquait de concevoir l'enquête comme une dynamique de connaissances à toujours complémenter. Donc, c'est dans cette perspective que s'inscrit mon retour sur le terrain après un laps de temps de 10 ans. Donc, dans ce quartier existant et qui porte le nom donc, d'un psychologue, médecin, homme politique, membre de la SFIO, puis du PCF, et donc qui est la rue homonyme du quartier. Il faut savoir aussi que la municipalité donc, de Saint-Martin-d'Hères, elle compte l'un des plus grands nombres de logements sociaux en Isère, et que donc, l'habitat collectif qui est étudié, donc, qui se compose, alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, mais de grands ensembles de barres HLM qui ont été construits dans les années 60 sur des parcelles de maraîchage cultivées sur d'anciens marais, et puis à quelques centaines de mètres, on ne le voit pas sur cette carte, se trouvaient donc les premières cités ouvrières et les écoles bâties donc dans les années déjà 20-30 sur ce territoire communal. Ce projet de rénovation durable, il présente une visibilité médiatique et institutionnelle. Je précise, il faisait partie donc, du programme européen Sunrise, qui a C'est donc des expérimentations qui ont été financées au titre du 5e programme cadre européen pour les actions de recherche et de développement technologique depuis 2003 et qui, dans ce cadre-là, donc dans le cadre du programme Sunrise, visaient, étaient destinées à des réhabilitations immobilières performantes en termes d'énergie et d'intégration des ressources solaires dans le bâtiment. Le coût total de cette rénovation a dépassé donc les 8 millions d'euros et la surface habitable est de plus de 24 000 mètres carrés. C'est une opération qui a reçu aussi le prix énergie aujourd'hui. Donc, vous pouvez peut-être le voir sur ce slide. Donc, la réhabilitation bloc-climatique, elle consiste ici en fait à cumuler donc les apports solaires actifs et passifs par la mise en place donc de 450 panneaux solaires thermiques qui sont en toiture. Et également par une isolation, donc la pose d'une isolation par l'extérieur sur les façades que vous pouvez peut-être apercevoir, et la création donc de 270 balcons vitrés, appelés aussi les jardins d'hiver, qui sont sur la photo de droite. Donc en parallèle de la recherche documentaire sur ce projet et le quartier avant la rénovation, le travail de contextualisation que j'ai pu faire ne s'est pas limité en fait à une approche par image telle que vous pouvez la voir ici. Je me suis attachée à rencontrer donc les différents acteurs, responsables institutionnels, professionnels et associatifs, pour expliciter les conditions de cette rénovation et du projet. Et puis, si les expériences habitantes n'ont pas été l'objet considéré comme point de départ de ma recherche, puisqu'un angle plus large a couvert l'habitat durable comme objet d'étude, en interrogeant notamment les préconçus idéologiques, les définitions normatives, il m'a semblé que l'analyse des processus de transformation à l'œuvre sur le temps long et dans différents territoires pouvait être davantage éclairée à travers les regards et les expériences donc des locataires sur leur situation. Donc depuis la concertation jusqu'au projet, la concertation du projet jusqu'à l'achèvement des travaux, en passant donc par les phases de chantier, les expériences habitantes et les mondes vécus spécifiques qui leur sont spécifiques m'a permis en fait de déplacer cette attention qui, dans les travaux, on s'en rend compte, a longtemps été focalisée sur la décision politique ou sur la conception des bâtiments finalement, et moins sur la manière dont les espaces et le temps de la rénovation durable sont expérimentés dans la vie quotidienne. Donc c'est de cela dont je vais vous parler. En effet, plutôt que d'envisager finalement la durabilité comme un absolu, je m'inspire donc de l'ethnologie urbaine, en formulant notamment l'hypothèse qu'aucune normativité à l'égard de l'habitat ne surdétermine les variations sociales, mais aussi existentielles, ni leur devenir. Alors, de visite en revisite, la marche d'approche de ce quartier a été entreprise sans intermédiaire, que ce soit dans la rue, dans les espaces publics à proximité, à l'intérieur des halls d'immeubles ou en faisant du porte-à-porte. Et en tant qu'étudiante, puis en tant que chercheur enseignante, j'ai à chaque fois présenté donc l'objet de mon enquête quant aux conditions de vie, avant, pendant et après la rénovation. Et ce que je peux le dire, c'est que le quotidien de cette enquête n'a pas été routinier, même à mon retour 10 ans plus tard, puisque aucun entretien n'a été préétabli. Si certains entretiens ont pu être reportés de quelques heures ou au lendemain, quand il ne s'agissait pas d'un évitement, je dois dire que la diversité des personnes que j'ai rencontrées dans l'intimité de leur logement relativise ces difficultés. En effet, donc, c'est âgé de 18 à 80 ans, une quarantaine d'individus, hommes et femmes, m'ont reçu chez eux, ainsi que les autres membres de leur famille qui pouvaient être présents au domicile. Et avec eux, on a pu poursuivre des échanges ou au contraire, ou les interrompre au bout d'une heure ou à trois heures d'entrevue. Ces visites aussi m'ont permis donc de découvrir et d'observer des rythmes et des organisations de la vie quotidienne diverses, à partir d'un échantillon donc qualitatif des habitants bénéficiaires des logements sociaux sous prélocatif. Et en fait, derrière les façades isolées par l'extérieur, les jardins d'hiver et les balcons à la rénovation bloc-climatique, Il a été possible donc de faire connaissance avec des foyers très modestes, des chômeurs de longue durée, des ménages titulaires d'une faible pension de retraite ou d'invalidité, des parents isolés au seul revenu de solidarité active, mais aussi des catégories, des ménages situés parmi les catégories supérieures des milieux populaires, ouvriers qualifiés, assistantes maternelles, etc., voire des classes moyennes. Je pense notamment au commissaire de police, soit une bibliothécaire universitaire à la retraite. Et également, donc, dans cet échantillon, des personnes originaires de la région ou d'autres en France, comme dans différents pays venant du Portugal, du Maroc, de l'Algérie ou encore du Vietnam. Donc, quels sont les résultats de cette visite? C'est bien qu'en fait, tous les seuils des appartements que j'avais pu visiter en 2007 ont été franchis en 2017. Il se trouve qu'aucune des personnes que j'avais rencontrées au cours des travaux de la rénovation m'ont accueillie 10 ans plus tard. Et ce, en fait, pour cause de déménagement, puisque les voisins ont pu m'informer suite à des changements de situation familiale ou un départ en maison de retraite ou en raison de décès. Donc, plus qu'une limite méthodologique, en fait, il y a là le résultat des effets de cycle de vie dont une perspective longitudinale comme celle que je vous présente peut rendre compte sur les conditions d'habitat social en renouvellement urbain. Et puis, donc, en empruntant un regard écologique au sens où George Herbert Mead et John Dewey l'ont aiguisé, les mondes vécus ici et que j'ai pu observer peuvent être décrits, c'est ce que je vais m'attacher à faire, comme des processus de vie sociale. Ce sont des processus de vie sociale qui se font et se défont en fait au fur et à mesure du temps et des interactions alors à la fois avec des tout petits organismes, des organisations et puis des environnements qui sont non uniquement naturels mais qui sont aussi matériels et sociaux. Et en ce sens, on peut dire que l'acte d'habiter prend forme à partir d'une écologie. En effet, donc, l'approche dynamique et systémique de cette enquête déborde les questions de participation des habitants ou celle de réception des projets d'aménagement. Depuis quelques années, elles sont bien traitées par les études urbaines, et c'est vrai que l'attention aux politiques a dominé plus largement la rénovation urbaine. Cela étant, en fait, la place des habitants ne se limite pas à ces dispositifs participatifs. Et notamment donc, dans le cas de ce projet de renouvellement urbain à la réhabilitation bleue climatique, en fait, l'action associative des locataires s'est avérée sur ce terrain-là relativement peu décisive. Donc, vous pouvez lire ici un extrait d'entretien que j'ai eu avec l'un des représentants d'une association de locataires en janvier 2007. Et au cours donc, des travaux de rénovation, finalement, la première phase de l'enquête que j'ai pu mener auprès des professionnels, des politiques et des habitants, elle a bien relevé en fait, ce que dit ce représentant de l'association, c'est-à-dire des rapports au temps et à l'espace qui sont très différents entre ces acteurs. Et il est bien exprimé dans cet extrait, c'est pour ça que je vous le propose à la lecture. Puisque ce responsable des associatifs, locataire donc du quartier d'habitat social, montre bien que la réhabilitation des immeubles met en jeu des processus qui sont non seulement matériels, biophysiques. Il parle notamment de la dégradation d'une façade en bois, cognitive, symbolique, esthétique et sociaux pour les habitants, et que les temporalités, mais aussi les spatialités, finalement, sont propres à chaque et contraintes aux habitants. Donc ma thèse, elle a pu souligner finalement les tactiques de ces habitants, au sens où Michel de Certeau a différencié ses comportements d'une stratégie et de ses activités planifiées. En effet, tel que j'ai pu le montrer dans cette thèse, en fait, les situations et les expériences habitantes que j'ai observées, retranscrites dans mon journal de terrain, n'étaient pas anticipées. C'est ce que je me suis rendu compte en relisant mes notes. Elles n'étaient pas anticipées par les locataires. Et finalement, les démarches de concertation qui ont été animées par, qui sont venues du bailleur et de la maîtrise d'ouvrage, se sont faites au coup par coup, à travers des adaptations à la marge pour les habitants. Et le projet donc, de rénovation durable apparaît bien comme le lieu finalement programmé par les maîtres d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, mais qui n'a guère suscité donc, la mobilisation des habitants localement. En fait, il se trouve que les marges de manœuvre des habitants étaient d'autant plus restreintes que les conditions de financement de ce projet dépendaient d'un montage, alors que les acteurs, à tous les entendre, d'un montage exceptionnel et très exigeant à la fois pour l'époque. Et c'est vrai qu'au regard des critères de financement transnationaux et régionaux, on voit le décalage fort avec les préoccupations des habitants. Pour les habitants, les performances énergétiques de la rénovation n'ont pas été affirmées de façon centrale dans les récits qu'ils nous ont faits et qu'on a recueillis auprès, que j'ai recueillis auprès des habitants. Ce n'est pas cela qui leur a été important. En effet, quand cette approche en fait de leur expérience, elle rend compte que dans le vif de ce processus,